Emmanuel Grégoire est géographe, directeur de recherche à l'IRD et auteur du livre « Maurice, de l'île Sucrière à l'île des Savoirs ». C'est sur cet ouvrage qu'il s'est appuyé pour développer la conférence que nous vous proposons d'écouter, enregistrée comme tous les mois à la bibliothèque L'Alcazar, sur une proposition de l'Institut de Recherche et Développement pour son cycle « Les îles laboratoires ». Nous partons au milieu de l'océan Indien, rejoindre ce micro-état qu'est l'île Maurice.
Cette île Maurice est peu étendue, puisqu'elle fait à peu près du nord au sud, 70 à 75 km, et dans sa plus grande largeur, une cinquantaine de kilomètres. Depuis son accession à l'indépendance, la République de Maurice a connu un développement économique très rapide, qui a fait d'elle un nouveau pays industriel. Qualifiée, pour reprendre une expression qu'on utilise en Asie, de tigre de l'océan Indien, elle est un des rares pays africains, si ce n'est le seul, à être parvenu à s'extraire de la liste des plus pauvres de la planète et finalement à sortir du sous-développement. En 2012, le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui est très connu, classait l'île Maurice à la 80e place sur 187 pays recensés, soit juste derrière l'Ukraine et devant le Brésil. Évidemment, une telle performance interpelle. Comment ce petit État, perdu au milieu de l'océan Indien, faiblement peuplé, puisque l'île Maurice a 1 275 000 habitants, sans ressources naturelles ni minières, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de minerais, est-il parvenu à surmonter le handicap de l'insularité, donc son isolement, et à sortir du sous-développement auquel il semblait condamné il y a 45 ans, c'est-à-dire au moment de l'indépendance, au moment où les Britanniques sont partis? Alors, sa situation géographique, manière un peu contradictoire, explique en partie le succès de l'île Maurice. Le pays était autrefois situé sur la route des Indes, mais aussi sur celle du thé, de la soie et de la porcelaine que les Européens allaient chercher dans les comptoirs de Chine. Elle avait donc également une situation géopolitique intéressante, dans la mesure donc où elle était sur la route des Indes. Et, comme je vais évoquer dans son histoire, elle était aux mains des Français. Et en 1761, le ministre britannique Pitt déclarait « Tant que les Français tiendront l'île de France c'est le nom donné par les Français à l'île Maurice, les Anglais ne seront pas les maîtres de l'Inde ». Et c'est cette phrase qui a motivé l'Angleterre d'en chasser les Français, comme je vais vous le relater. Si l'ouverture du canal de Suez en 1869, je vous le rappelle, l'a un peu mise à l'écart du négoce entre l'Europe et l'Asie, l'île Maurice est aujourd'hui devenue une passerelle entre l'Afrique australe et orientale et des pays comme l'Inde et la Chine. Depuis l'indépendance aussi, l'île Maurice a eu le mérite de s'efforcer de diversifier son économie, comme je vais le montrer, qui était au départ basée sur la monoculture sucrière. Elle s'est donc ouverte sur le monde et n'est pas restée repliée sur elle-même. C'est ce que je vais montrer au cours de cet exposé, où je vais aborder trois points. Un premier point, une île ouverte au monde. Deuxièmement, une île mondialisée, en montrant comment l'économie mauricienne s'est tournée vers les autres continents et a basé ainsi son succès. Et ensuite, je parlerai de la mer en tant qu'espace disputé, puisque l'île Maurice a des différents territoriaux avec ses deux anciennes puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne, à propos d'îlots. Alors, Le premier aspect, le premier point, une île ouverte au monde. L'île Maurice a été découverte au début du XVIe siècle par des navigateurs arabes. Mais ils ne l'ont jamais habitée, ils l'utilisaient juste comme escale tout à fait ponctuellement. Aussi, l'histoire de Maurice se scinde en trois grandes périodes qui sont liées à sa colonisation, encore que colonisation, c'est un terme qu'il faille nuancer, dans la mesure où l'île Maurice était au départ inhabitée. Quand les Hollandais sont venus l'occuper, il n'y avait aucune population. Donc il y a trois grandes époques dans l'histoire de Maurice, l'époque française, l'époque anglaise et l'époque du pays indépendant. Alors, les premiers colonisateurs de l'île Maurice, ou les premiers à s'installer, pour être plus précis, les Hollandais, n'y séjournèrent pas très longtemps, tout au plus une douzaine ou une quinzaine d'années, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. En fait, ils l'avaient utilisé comme simple escale, eux aussi, sur la route des Indes, mais ne voyaient guère d'intérêt à conserver ce petit territoire, dans la mesure où ils étaient déjà implantés en Afrique du Sud. Aussi, en 1708, ils l'abandonnèrent et pendant 2 ans, l'île Maurice n'avait plus de population. Même plus, puisque c'est en 1715 qu'un Français, un navigateur, du nom de Dufresne d'Arcel, en prit possession au nom du roi de France, du roi Louis XIV. Dès lors, et jusqu'en 1764, ce qu'on appelait alors l'île de France, fut placée sous la tutelle de la fameuse Compagnie des Indes, celle-ci utilisant Maurice pour ravitailler ses vaisseaux qui se rendaient dans ses comptoirs indiens. L'île connut un premier développement sous le gouverneur Mahé de la Bourdonnais, qui fut gouverneur de Maurice de 1735 à 1747, et qui fut auparavant, d'ailleurs, gouverneur de La Réunion. On voit l'histoire de ces îles qui forment un ensemble, ce qu'on appelle les Mascareignes, sont étroitement liées. Celui-ci développa le premier la culture de la canne à sucre et construisit un port en eau profonde à Port-Louis, la capitale de Maurice. Il offrit aussi un cadre juridique et économique favorable aux marchands au long cours, mais aussi aux planteurs et aux marins. En 1766, l'île fut placée sous le contrôle du roi de France et non plus de la Compagnie des Indes, et comptait alors 20 000 habitants, dont 18 000 esclaves. Ces esclaves avaient été importés des côtes du Mozambique et de Madagascar et on les a fait venir pour les mettre au travail pour exploiter les champs de canne. À la fin du XVIIIe siècle, la population avait sensiblement augmenté, puisqu'elle avait triplé, et on comptait 60 000 habitants, dont 49 000 esclaves, les autres habitants étant des métis ou des blancs, et en l'occurrence des Français. Parmi les Français, il y avait certes certains qui étaient devenus planteurs, mais d'autres continuaient leur activité de marin et de corsaire. Et cette activité de corsaire, ou les corsaires français dont le plus célèbre fut Surcouf, dévalisait les bateaux britanniques qui revenaient des Indes. Et les Britanniques, particulièrement agacés par ces agissements, décidèrent d'intervenir et de s'emparer de Maurice pour mettre fin à cette piraterie. En 1808, ils tentèrent un premier débarquement à Maybourg. Maybourg est situé à l'emplacement, c'est cette petite église qui est tout à fait au nord de l'île. Et c'est là que les Anglais débarquèrent pour la première fois. Là, ce fut un débarquement victorieux. Auparavant, en 1808, ils avaient tenté un débarquement qui a échoué dans le sud de l'île, à Grand-Port. Mais après cet échec à Grand-Port, les Anglais donc ne se découragèrent pas et finirent par s'emparer de l'île pour mettre fin aux agissements des corsaires français qui pillaient leurs navires. Donc ils débarquèrent à cet emplacement qu'on appelle Cap Malheureux. L'île de France fut évidemment rebaptisée et on lui donna le nom de Mauritius, qui était le nom qui avait été initialement donné par les Hollandais en hommage au prince Maurits van Nassau. Donc un traité de capitulation fut conclu entre la France et la Grande-Bretagne. Mais ce traité de capitulation fut qualifié de « gentleman agreement » dans la mesure où les Britanniques autorisèrent les Français établis dans l'île à conserver leurs lois, à tel point que le code Napoléon fait toujours partie du système juridique local, leurs coutumes, leur langue, Maurice, on parle toujours français, leur religion aussi, religion catholique, mais aussi leurs biens, et ne remirent absolument pas en cause leur hégémonie sur l'économie locale à travers la culture de la canne à sucre. La Grande-Bretagne entendait donc pacifier Maurice, mais ne pas en faire une culture, une colonie de peuplement. En même temps, rapidement, et ça c'est la deuxième partie de mon exposé, c'est la période anglaise, le Royaume-Uni offrit de nouveaux débouchés au sucre mauricien, à la fois au Royaume-Uni et dans sa colonie indienne. Et les Britanniques firent de l'île Maurice, qui était alors tournée vers la mer, une colonie de plantations qui engendra une nouvelle classe, celle des planteurs sucriers, qui remplaça celle des marins au long cours et des négociants. Très vite, l'industrie sucrière se développa, et ce développement de la canne à sucre fut spectaculaire. La production passa de 500 tonnes en 1812 à plus de 100 000 en 1853, soit en près de 40 ans. Alors, cet essor, évidemment, de la canne à sucre nécessita l'arrivée massive d'esclaves africains et malgaches. Et ces esclaves représentaient, en 1833, près de 70% de la population, soit 66 000 personnes sur 92 000. Mais le système ne pouvait pas durer, puisque l'abolition de l'esclavage fut proclamée et fut effectif dans l'Empire britannique dès 1807. Mais un peu plus tard à Maurice, car les Britanniques laissèrent aux planteurs français le temps de trouver une autre solution et de faire venir une autre main-d'œuvre. Et ils ne purent d'ailleurs les conserver d'autant plus que les anciens esclaves quittèrent les plantations pour devenir artisans, pêcheurs, éleveurs, petits agriculteurs ou colporteurs. Mais en aucun cas, ils voulaient rester au service de leurs anciens maîtres. Et comme à la Réunion, ces esclaves furent remplacés par ce qu'on a appelé des laboureurs, des coolies en anglais, d'origine indienne. Ces hommes, qui étaient dits des laboureurs engagés, venaient à Maurice sous forme d'un contrat de 5 ans, qu'ils pouvaient éventuellement renouveler et qu'ils renouvelèrent pour la plupart d'entre eux. Et ces hommes étaient des paysans pauvres, originaires de l'Inde, notamment de l'État du Bihar. Leur immigration débuta en 1834 et donc prit le relais des esclaves et prit fin progressivement au début du XXe siècle. Elle fut massive et beaucoup de ces laboureurs dits engagés ne revinrent jamais en Inde mais se fixèrent définitivement à Maurice. Et cela explique que ils étaient devenus deux fois plus nombreux dans l'île que le reste de la population. Et en 1901, sur une population globale de 370 000 personnes, on comptait 260 000 indien. Et donc, c'est ainsi que l'île Maurice, progressivement, devint une société multiculturelle, avec au départ des Français, des Européens donc, des personnes originaires de Madagascar, d'Afrique, voire même pas seulement du Mozambique, mais des côtes du Sénégal, puisqu'il y a des Africains de l'Ouest qu'on a fait venir, et ensuite toute une population venue d'Inde qui devint majoritaire. Alors la culture de la canne à sucre continua à se développer, mais parfois non sans difficulté, car elle fut marquée parfois par les dégâts des cyclones, par des dégâts aussi causés par un insecte nuisible qu'on appelle le borer, par des maladies de la canne, des épizooties, et enfin aussi par la malaria, qui entraîna la fermeture d'un certain nombre de propriétés françaises situées près du littoral. Et progressivement apparut un morcellement des grandes propriétés des Français qui s'effectua au profit justement de ces immigrants d'origine indienne et ceux qui se portèrent acquéreurs des propriétés des anciens planteurs français étaient le plus souvent ce qu'on appelle des sirdars, c'est-à-dire d'anciens contremaîtres qui organisaient les travaux au champ. Et donc, avec les disparitions des planteurs français, on assista à l'émergence de petits planteurs, qu'on appelle indo-mauriciens, qui furent de plus en plus nombreux à être indépendants et à travailler la canne pour eux-mêmes. En même temps, la production ne cessa d'augmenter, puisque de 220 000 tonnes en 1910, la production passa de 300 000 tonnes en 1936 et à 500 000 tonnes en 1953, pour atteindre son maximum de 660 000 en 1965. La canne à sucre couvrait alors un tiers du territoire et était devenue une véritable industrie, mais demeurait la seule et unique ressource du pays. Préparée de longue date à l'indépendance, celle-ci fut acquise sans heurts, comme en Afrique de l'Ouest, pour les anciennes colonies françaises, les Britanniques accompagnant le processus jusqu'au 12 mars 1968, jour de l'indépendance, jour où le drapeau mauricien, le quadricolore, se substitua à l'Union Jack. Un peu plus tard, la monnaie mauricienne, la roupie comme en Inde, fut détachée de la livre sterling, rompant ainsi tout lien financier monétaire avec l'ancienne métropole. Et enfin, le 12 mars 1992, encore un peu plus tard, la reine d'Angleterre n'était plus la souveraine de Maurice, la République ayant été proclamée. Alors, la troisième période, c'est l'île indépendante. Alors, au moment de l'indépendance, l'île Maurice a dû se débrouiller toute seule et trouver de nouveaux partenaires. Et c'est pourquoi, Maurice, je vous rappelle, est classée parmi les pays africains, elle s'arrima aux organisations africaines, notamment à l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, à la Banque Africaine de Développement et à l'Organisation Commune Africaine et Malgache. En même temps, l'île Maurice s'arrimait à toutes les organisations régionales qui étaient nées de l'initiative des pays de l'océan Indien, donc de Madagascar notamment, des Seychelles devenues indépendantes, mais aussi parfois de territoires français comme la Réunion. Et j'en pense là à la Commission de l'océan Indien qui regroupe Madagascar, Maurice, les Seychelles, l'archipel des Comores et la Réunion. Au sein du continent noir, Maurice fait toujours figure, malgré sa taille réduite, d'un pays leader, puisque Maurice a été jusqu'à représenter l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent en 2001 et 2002. Et par ailleurs, l'île Maurice aspire à jouer un rôle économique important et géopolitique important sur la scène internationale en se faisant le porte-parole justement de tous ces petits États insulaires, à la fois de l'océan Indien, mais aussi du Pacifique et de l'Atlantique. Alors évidemment, lié à l'Afrique, Maurice garde quand même de solides attaches avec ses deux anciennes tutelles coloniales, que sont la France et la Grande-Bretagne. Mais en même temps, elle joue sur un troisième tableau, c'est sur l'Asie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une forte population d'origine indienne qui s'était installée à Maurice. Il y a également une petite population d'origine chinoise, notamment de Canton, qui est venue au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle s'installer à Maurice, où elle s'est installée comme commerçant. Donc, lien également avec la Chine. Et pour vous donner quelques données générales, 60% des Mauriciens sont originaires d'Inde, 2,5% d'entre eux de Chine, à peu près 5% d'origine française et le reste, c'est d'origine africaine. Donc, des liens étroits, humains, culturels, historiques, avec l'Inde et la Chine. Et en même temps, l'Inde et la Chine entendent s'appuyer sur Maurice, qui est un pays africain, pour pénétrer les marchés africains à travers toutes les organisations régionales dont elle est membre. Et ce partenariat a pris parfois des formes extrêmement surprenantes, comme, et j'en ai été témoin, en février 2009, la visite du fameux président chinois Hu Jintao, qui se rendit à Maurice au terme d'un périple qu'il avait auparavant conduit dans 4 autres pays africains. La Chine, président de la Chine, avec ses 1,2 milliard d'habitants, faisait étape pendant 2 jours à Maurice avec ses 1,275 000 habitants. Ce qui montre l'importance de l'île, y compris pour un pays comme la Chine. On accuse souvent la Chine de s'installer uniquement là où il y a des matières premières et de les exploiter. À Maurice, il n'était pas question de matières premières puisqu'il n'y en a pas. Il y avait été question simplement d'un intérêt géostratégique. Maurice est bien placé pour pénétrer et pour permettre aux pays chinois de pénétrer les marchés africains. Parallèlement à ces échanges nord-sud avec la France et la Grande-Bretagne, notamment sur le sucre, Maurice a développé des échanges sud-sud. Alors, je vais vous retracer brièvement les grands secteurs d'activité de Maurice pour vous montrer comment ce petit pays est sorti du sous-développement en ayant su saisir un certain nombre d'opportunités pour diversifier son économie et créer des emplois. Alors, sur le sucre, je vous en ai déjà pas mal parlé, je vais aller assez vite. Et évidemment, le sucre est lié à l'histoire de Maurice. Et le sucre était exporté principalement en Grande-Bretagne. Et quand la Grande-Bretagne a adhéré au marché commun en 1975, le sucre mauricien a bénéficié de ce qu'on appelle la Convention de Lomé, qui était un accord entre l'Union européenne, le marché commun à l'époque, et les anciennes colonies de ces 6 pays européens, et essentiellement les colonies françaises. Et cette convention de Lomé donnait des accords préférentiels à ces pays pour les aider justement à se développer et donc rémunérer leurs denrées agricoles à un prix supérieur au cours mondial. Et ces différents produits agricoles faisaient l'objet de ce qu'on appelle des protocoles. Il y avait un protocole pour la banane et il y en avait un pour le sucre, dont bénéficia Maurice, qui était ainsi à l'abri de la concurrence internationale et en même temps avait un tarif privilégié. Donc c'était une aide indirecte aux pays en développement. Le problème, c'est qu'avec la mondialisation, un certain nombre de pays se plaignèrent auprès de l'Organisation mondiale du commerce et jugèrent que ces accords étaient contraires aux règles internationales du commerce. Et l'Union européenne a dû les abolir. Et à Maurice, où le sucre était une affaire nationale depuis toujours, cela a été très mal perçu, puisque c'était une rente de près de 40 ans qui s'effaçait. Néanmoins, comme à leur accoutumée, les Mauriciens retroussèrent leurs manches et décidèrent de produire cette fois-ci du sucre blanc et des sucres spéciaux pour en quelque sorte monter en gamme et échapper à la concurrence par le bas. En même temps, ils essayèrent et ils réussirent à mettre en valeur les résidus de la culture du sucre, notamment ce qu'on appelle les tiges, la bagasse. Donc la canne à sucre fait toujours partie du paysage mauricien. Au moment de l'indépendance, Maurice possédait un tissu industriel très embryonnaire, avec seulement 70 entreprises qui employaient près de 1200 personnes. Donc tout reposait sur le secteur primaire, et comme de nombreux pays dans son développement, eh bien Maurice a commencé à développer son secteur secondaire. Objectif, évidemment, réduire le chômage, booster le PIB par habitant et engranger des rentrées de devises. Et à ce moment-là, le gouvernement mauricien, Maurice indépendante, qui était travailliste, au cours des années 70, donc dans la décennie qui a suivi l'indépendance, eut l'idée géniale de créer une zone franche manufacturière en s'inspirant des exemples de Taïwan et Singapour. Donc, vous voyez, influence asiatique. On crée une zone franche, on accorde d'énormes facilités aux investisseurs, on fait en sorte que la zone franche ne soit pas concentrée sur un espace limité, mais touche l'ensemble de l'île afin de donner du travail à tous les Mauriciens et non à ceux de telle ou telle région. Et cette zone franche, qui reposa sur l'industrie textile, connut un développement spectaculaire et fut une véritable réussite. Et là aussi, Maurice bénéficia d'un accord préférentiel avec l'Europe, qu'on appelle l'accord multifibre, qui lui permettait d'importer en Europe à l'abri de la concurrence des pays asiatiques qui produisaient à plus bas prix, mais qui ne bénéficiaient pas d'un tel accord. Et donc, à son apogée, cette zone franche représentait près de 90 000 emplois, 12% du PIB et 2/3 des exportations mauriciennes. Elle était des produits textiles, les t-shirts, les pulls, les pantalons, les chemises, etc., étaient dirigés vers l'Europe, mais aussi les États-Unis. Et en l'espace de 3 décennies, elle était devenue un des piliers de l'économie nationale et a permis à Maurice de se libérer de sa dépendance à l'égard du sucre. Là aussi, comme dans le sucre, comme pour le protocole sucre, l'accord multifibre fut aboli et Maurice fut exposé à la concurrence asiatique. Évidemment, comme elle produisait à des coûts supérieurs, elle a été obligée de monter en gamme pour se soustraire à la concurrence de pays comme le Bangladesh. Et en même temps, pour vous montrer l'ingéniosité des entrepreneurs, des hommes d'affaires mauriciens, bon, milieu d'affaires mauriciens, sont contrôlés par ce qu'on appelle des franco-mauriciens, les descendants des anciennes grandes familles de l'époque sucrière, sont aussi dominés par des sino-mauriciens, donc des familles d'origine chinoise, qui sont beaucoup commerçants, et quelques familles d'origine indienne. Et donc, ces entrepreneurs mauriciens ont constaté qu'à partir d'un certain moment donné, leurs entreprises ne pouvaient pas se développer uniquement à partir de l'île et de leur marché intérieur. Et c'est pourquoi, déjà, les compagnies sucrières se sont installées, notamment au Mozambique, où elles ont racheté des plantations pour se développer à l'étranger, et les industries textiles mauriciennes firent de même en allant chercher ailleurs une main-d'œuvre moins chère que localement. Et donc les Mauriciens sont partis s'installer à Madagascar, mais aussi en Inde, en Chine, puisqu'il y a des entreprises mauriciennes qui sont en Chine, et au Bangladesh, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors le troisième secteur, vous le devinez, c'est l'industrie touristique. Alors là aussi, de forts atouts, parce que Maurice est un très beau pays, je vais vous montrer quelques photos, et qui correspond à la fameuse combinaison des trois S, Sun, Sand and Sea, c'est-à-dire soleil, plage et mer. Bon, il y a des très belles plages de sable blanc qui sont bordées d'un lagon avec des eaux limpides, il n'y a pas de pollution. Il y a une température très clémente, il y a des équipements hôteliers de bonne qualité et un accueil à la fois chaleureux et compétent. Et donc c'est une activité qui emploie à peu près 10% de la population active, soit à peu près 50 000 personnes à un emploi direct et indirect confondu. Et elle représente 8,5% du PIB. Le nombre de touristes a fortement augmenté, puisqu'aujourd'hui, l'île Maurice fait venir à peu près chaque année 950 000 touristes, dont la majorité d'entre eux, à peu près la moitié, viennent de France et de l'île de la Réunion. Les hôtels occupent à peu près 20% du linéaire côtier, hein, si bien que les espaces encore libres sont convoités et que les prix flambent. En plus, il y a quand même des problèmes avec les populations locales, les populations de pêcheurs, mais aussi tous les Mauriciens, puisque maintenant, les Mauriciens ont l'habitude d'aller à la plage le dimanche, de camper, de faire des pique-niques, et ils entendent défendre les derniers espaces libres qui restent et s'opposer parfois au complexe hôtelier qu'on veut implanter. Et là aussi, même stratégie des Mauriciens, c'est qu'on a développé l'industrie locale, on a créé des grands groupes, mais on part à l'extérieur chercher la croissance. Et les grands groupes mauriciens se sont installés aux Seychelles, où les conditions du marché sont à peu près les mêmes, à La Réunion, où ils ont racheté des hôtels, mais aussi à Madagascar. Donc les Mauriciens, à partir du moment où on peut plus se développer chez soi, et on part à l'étranger. Alors un nouveau secteur d'activité, bon, le sucre, secteur primaire, le textile, secondaire, le secteur du tourisme tertiaire, et il y a un nouveau secteur tertiaire qui s'est créé, c'est la sibérille. Et Maurice cherche toujours à diversifier son économie, parce qu'elle sait qu'elle peut être vulnérable sur certains secteurs, comme je l'ai dit, textile, sucre, donc à chaque fois, on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on diversifie, et on cherche à créer des emplois, notamment pour une population jeune de plus en plus formée. Et donc, l'idée au début des années 2000 qui a été mise en place, c'est de faire de Maurice ce qu'on appelle une sibérille, et donc de développer tout ce qui est lié au TIC, c'est-à-dire aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour cela, le pays a adopté une législation favorable aux investissements étrangers, et en même temps aux investissements nationaux. Et donc, il s'agit cette fois-ci d'attirer des services et non plus des industries, mais en jouant toujours sur l'avantage comparatif que possède l'île en termes de coût de travail, notamment par rapport à l'Union européenne. De grands groupes comme France Télécom, bien d'autres, des banques, se sont implantées à Maurice où elle sous-traite un certain nombre de tâches. Et évidemment, ici, c'est ce que le fameux débat sur les délocalisations d'emplois, des pertes d'emplois en France et des entreprises qui vont à l'étranger chercher des coûts salariaux plus faibles. Et là encore, sur ce modèle de la sibérille, Maurice s'est inspiré de l'Inde, qui a développé ce secteur depuis de longues années. Et Maurice est allé voir comment ça se faisait là-bas et a demandé aux Indiens de l'aider. Alors, un autre secteur qui est peu connu, c'est les activités financières. Le pays a délibérément, toujours pour diversifier son économie, développé en 1992 ce qu'on appelle un secteur offshore, donc des activités financières hors du territoire. 5000 personnes travaillent dans ce secteur, ce qui n'est pas négligeable, et là, c'est des gens qui ont une formation poussée. Ce secteur rapporte de l'argent, et ce secteur est orienté principalement vers l'Inde. Il y a deux types d'activités de paradis fiscal à Maurice, il y a une activité qui est tournée vers l'étranger et une activité qui est l'accueil de capitaux de particuliers, notamment de riches sud-africains, rarement d'européens, de plus en plus de russes. Mais il y a une activité qui est tournée vers l'Inde. Et je vais vous expliquer très brièvement le système, parce qu'il est très simple et en même temps il est assez étonnant. Maurice a ce qu'on appelle une convention de double imposition, CDI, qui a été signée avec l'Inde. En fait, cette convention prévoit que les entreprises ne payent leurs impôts que l'un dans l'un ou l'autre des deux pays. Une firme, prenons l'exemple d'une firme américaine, qui investit en Inde directement, il sera imposé sur son activité car il n'y a aucun accord fiscal entre l'Inde et les États-Unis. Donc, pour éviter cette lourde imposition, la société américaine va faire appel à Maurice, qui offre la possibilité, qui lui offre la possibilité de constituer une société mauricienne qui créera à son tour une filiale en Inde. Et c'est cette filiale qui réalisera les investissements de la société mère américaine. Comme il y a un accord fiscal entre les deux pays, entre Maurice et l'Inde, cette filiale ne payera pas de taxes sur ses bénéfices et ses plus-values en Inde, mais à Maurice, où elles ne sont pas taxées. Enfin, elle pourra rapatrier ses profits aux États-Unis sans taxe de sortie ni contrôle d'échange. Et grâce à cela, Maurice est le premier pays investisseur étranger en Inde, qui représente plus de 50%, près de 60% des investissements qui sont effectués depuis l'étranger en Inde. Donc c'est une grosse activité et évidemment c'est une activité de paradis fiscal. Mais là encore, reconnaissons le génie des Mauriciens qui ont su mettre en place ce secteur. Certes, l'Inde a accepté, ça lui coûte cher, mais il y a aussi des intérêts, je dirais, géopolitiques derrière. Et Maurice, pour ne pas dépendre uniquement de l'Inde, a monté le même système avec l'Afrique du Sud. Le temps passe assez vite et il faut que j'avance. Et je vais vous parler de la pêche brièvement. Alors, la pêche, il y a un secteur traditionnel hein, et tous les Mauriciens sont un peu pêcheurs le dimanche, pêche à la ligne, mais il y a également des pêcheurs dans des barques qui partent au-delà du lagon. Il y a de la pêche au gros, comme vous pouvez voir le navire au second plan, et là, c'est de la pêche pour les touristes. Il y a de la pêche aussi, de l'élevage en quelque sorte, dans des cages pas très loin des côtes. Et il y a de la pêche hauturière, c'est-à-dire en haute mer. Mais là, Maurice a un handicap, c'est qu'elle n'a pas de très gros bateaux et qu'en fait, elle est plutôt contrainte à louer ses espaces maritimes à des compagnies étrangères qui viennent pêcher. Le problème, c'est que souvent, il y a de la contrebande, et des bateaux indiens, malaisiens ou autres qui viennent dans les eaux territoriales mauriciennes sans autorisation et qui pillent un peu la ressource. Il y a bien des accords avec la France pour surveiller ces zones, mais les moyens de surveillance sont insuffisants pour faire face à toute cette fraude. Mais Maurice est un petit pays qui a plusieurs îles et donc qui a un espace maritime considérable. Le port aussi, le port, c'est le port de Port-Louis, hein, qui est au nord de l'île, un port important, à la fois pour approvisionner Maurice en produits pour son propre marché, mais aussi beaucoup de produits en transit qui viennent d'Inde et de Chine, pour aller ensuite en Afrique. Un quartier plus populaire de Port-Louis, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la société mauricienne, du fait du développement rapide de l'île, est une société également très inégalitaire et qui a de fortes inégalités sociales. Il y a, au sommet de la pyramide, les quelques familles franco-mauriciennes qui tiennent encore l'économie. Il y a également des familles sino-mauriciennes. Il y a toute une couche de classe moyenne qui sont les Indo-Mauriciens, qui sont essentiellement des fonctionnaires qui contrôlent l'appareil administratif et l'appareil politique. Et au bas de l'échelle, des Indo-Mauriciens également, mais beaucoup de créoles, donc de populations métisses et noires. Et ici, voilà, bon, un mur où il y a marqué en créole « Respectez nos familles, arrêtez de prendre tout le monde, tout le monde pour vos femmes, cessez de vendre de la drogue à cause d'un sou ». Et ça, le problème des cités comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de trafic de drogue et de prostitution. Alors, pour être complet, je voudrais dire un petit mot de Rodrigue, qui est la seconde île de Maurice, qui est située à 700 km à l'est. Rodrigue, c'est un peu, comme disent les Mauriciens, Maurice il y a 20-25 ans. C'est-à-dire que c'est une île qui reste extrêmement peu urbanisée, peut-être authentique, bien que j'aime pas tellement le terme, qui est différente de Maurice parce qu'il n'y a pas eu de culture de la canne à sucre. Il n'y a pas eu donc d'installation de grandes plantations. Il n'y a pas eu de laboureurs d'origine indienne. Et c'est donc une population essentiellement créole. C'est une île qui était également inhabitée au départ, qui était uniquement peuplée, je dirais, de tortues, où il en reste quelques spécimens, et c'était une île très, très sauvage. C'est une île qui vit sur l'agriculture, l'agriculture de subsistance, hein, des petits champs de cases avec des légumes, des arbres fruitiers, notamment des manguiers, quelques champs de maïs. Et les Rodriguais sont tous un peu pêcheurs, et le poisson joue un rôle très important dans l'alimentation de la population. Il y a aussi de la pêche au gros, donc des touristes qui viennent pour se livrer à cette activité sportive. Et en même temps, les prises de la pêche au gros servent à l'approvisionnement de l'île en poisson et sont parfois exportées sur Maurice. Une pêche locale qui se fait à l'intérieur du lagon et hors du lagon, mais jamais très loin parce que les barques ne sont pas suffisamment importantes. Et les principales prises, c'est en mer haute, hors lagon, ce sont des thons, des marlins, des capitaines, etc. Dans le lagon, c'est différents poissons et notamment des poulpes. C'est ce qu'on appelle les ourites et c'est légendaire à Maurice. Et la pêche à l'ourite est faite à l'intérieur du lagon. C'est une activité principalement féminine et elle est importante et une partie des ourites sont exportées à Maurice. On fait aussi ce même type d'activité à Madagascar. Ce qu'il faut souligner sur Rodrigue, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle l'île oubliée. C'est-à-dire que Maurice, l'administration autrefois britannique et française, n'attachait pas grande importance à Rodrigue, qui est éloigné et où il n'y a pas de ressources. Donc il n'y a pas eu de mise en valeur. Et finalement, Rodrigue a été toujours à la traîne et les Rodriguais l'ont fortement ressenti. Et en 1968, au moment, juste avant l'indépendance, plutôt en 67, puisqu'il avait été organisé un référendum sur l'indépendance de Maurice et des îles qui lui étaient affiliées, autant l'île Maurice a voté majoritairement pour l'indépendance, autant l'île Rodrigue s'y est opposée et a voulu rester britannique. Les Britanniques n'ont pas voulu et les Rodriguais ne se sont pas découragés puisqu'ils ont demandé aux Mauriciens que la Constitution leur accorde le droit de chercher d'autres formes d'association. Et à un moment donné, ils se sont tournés vers la France, ce que la France, évidemment, a refusé. Mais il n'en reste pas moins que les Rodriguez restent proches de la Réunion et restent également proches de la France, d'ailleurs comme les Mauriciens. Et Maurice a cette particularité, c'est que c'est le seul pays au monde où le français progresse sur l'anglais. En même temps, c'est un pays qui est à la fois membre du Commonwealth et membre de la francophonie, un des trois pays qui est membre des deux institutions avec les Seychelles et le Cameroun. Je voudrais quand même attirer votre attention sur deux petits points particuliers. C'est les conflits territoriaux que j'ai évoqués tout à l'heure avec la Grande-Bretagne et avec la France. Alors, avec les Britanniques, c'est la question de l'archipel des Chagos. Et c'est depuis déjà de longues années qu'il y a un litige territorial et la querelle porte sur cet archipel qui est fantastique, hein, qui est complètement déserté, avec un environnement naturel et qui est formé de 64 îles coralliennes qui sont situées au sud des Maldives, comme je vous le disais tout à l'heure, et à 2200 km au nord-est de Maurice. Et Maurice qui en revendique la souveraineté. Et tout le problème est là. Parce qu'en fait, en 1965, les Britanniques le détachèrent de son ancienne colonie, Maurice, soit 3 ans avant son indépendance, pour créer ce qu'on appelle les British Indian Ocean Territories, BIOT, jugeant qu'il présentait un réel intérêt géopolitique et militaire dans un contexte alors marqué par la guerre froide. Sa situation géographique, comme je vous l'ai montré, était en effet stratégique au moment où les États-Unis et la Grande-Bretagne s'efforçaient de combattre dans l'océan Indien l'influence croissante de l'URSS, qui ouvrait de nouvelles bases militaires au Mozambique, en Somalie, alors que les Anglais perdaient leur base, leur fameuse base d'Aden et de Berbera en Somalie. Aussi, les Anglais persuadèrent-ils le Premier ministre mauricien, juste avant l'indépendance, lequel fut le père de la nation, donc le premier Premier ministre de Maurice indépendant, de renoncer à l'archipel des Chagos en échange de l'indépendance immédiate de Maurice et d'une compensation financière de 3 millions de livres. Les Britanniques, bon, le Premier ministre mauricien accepta, de bonne foi d'ailleurs, parce qu'il y avait très peu de population dans l'archipel des Chagos, c'était vraiment des îles extrêmement éloignées que Maurice finalement n'avait pas grand intérêt, ne voyait pas grand intérêt à conserver. Toutefois, les Britanniques dépeuplèrent l'archipel en exilant sa population à Maurice afin de louer l'île principale que je vous ai montrée tout à l'heure, Diego Garcia, à l'Amérique et l'armée américaine. Les Américains, en effet, exigeaient que l'archipel des Chagos soit entièrement vidé de leurs habitants pour y installer une très importante base navale. Et cette base est la base de Diego Garcia, qui est assez connue, on l'entend souvent aux informations, et elle joue ainsi un rôle important dans le conflit afghan, en Irak, dans la lutte contre le terrorisme, et des hommes suspectés d'appartenir à Al-Qaïda ont été internés à Diego Garcia avant d'être acheminés sur la fameuse base cubaine de Guantanamo. Les États-Unis tiennent donc à conserver Diego Garcia, qui est idéalement placé et qui constitue une pièce maîtresse de leur dispositif militaire régional. Mais ça n'empêche pas finalement les Mauriciens de revenir sur leur position et de réclamer inlassablement la restitution de l'archipel des Chagos, ce que les Anglais refusent obstinément. Alors les Anglais ont été condamnés par de nombreuses instances internationales au motif que la décolonisation ne s'opère pas par le dépeuplement de territoires, mais ils maintiennent leur position et n'entendent pas céder. Les Mauriciens font une pression de plus en plus forte car le bail des États-Unis arrive à terme en 2016 et donc il y a un enjeu au niveau de sa reconduction. Il y a également un combat qui est mené par un Chagossien qui s'appelle Olivier Bancoult, qui est réfugié à Maurice, et qui, lui, s'efforce d'obtenir le retour de ses frères dans l'archipel, sans toutefois remettre en cause la souveraineté britannique. Donc, Maurice réclame la restitution de l'archipel et souhaite la souveraineté. Olivier Bancoult et son groupe disent « Nous, on veut revenir là-bas, mais on est d'accord pour être sujet de sa gracieuse majesté. » Et Olivier Bancoult a obtenu de réels succès auprès des plus hautes instances de Londres, si bien que le retour des Chagossiens est maintenant possible, et même les Américains n'y semblent plus opposés, à la fois dans les autres îles, et y compris à Diego Garcia, à condition séparer par un grand mur la base américaine du reste de l'île. Donc il y a un certain nombre de progrès à ce niveau-là, mais quant à la restitution de l'ensemble de l'archipel des Chagos à la République de Maurice, c'est une autre affaire, et Margaret Thatcher, en son temps, avait affirmé à son homologue mauricien « L'île de Diego Garcia sera rendue à Maurice lorsqu'elle ne sera plus utile en tant que base. Il n'y a aucune limite dans le temps. » Donc cette affaire continuera de ternir les relations entre les deux pays. Un petit aperçu à propos de Tromelin. Alors, Tromelin, c'est plus simple. La situation est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de population en jeu. Tromelin a toujours été une île inhabitée et il n'y a dedans que des animaux, des oiseaux de mer et des tortues. Et en fait, la France a toujours considéré que Tromelin dépendait de la Réunion et Maurice dit non, que des Mauriciens s'y étaient installés au début du XXe siècle et même au milieu des années 50, et que par conséquent, Tromelin leur appartient. Finalement, il n'y a pas de querelle comme avec la Grande-Bretagne. La France, d'abord grâce à sous l'impulsion de Jacques Chirac, a proposé aux Mauriciens de faire une double tutelle et d'en faire une réserve marine. Et donc, un accord de co-tutelle a été signé entre la France et Maurice à l'époque du président Sarkozy. Et les deux pays s'engagent à en faire une zone de préservation de l'environnement. Donc un lieu de ponte pour les oiseaux de mer et également pour les tortues, notamment les tortues vertes. Et donc il n'y a absolument rien sur Tromelin, il y a juste une station météorologique. Mais il y a un vaste espace maritime autour et ça constitue bien évidemment un enjeu. Alors, pour conclure, évidemment, le miracle économique mauricien est très souvent cité en exemple pour montrer la viabilité des îles de faible dimension dans un monde à la fois en développement et mondialisé. Et on dit souvent que ces petites îles sont vouées à vivoter et ne parviennent pas à surmonter le handicap de l'insularité. Eh bien, c'est faux. Montrer, Maurice a prouvé le contraire. Et un des grands atouts que je n'ai pas évoqué de Maurice, c'est, et bien évidemment, surtout au regard des autres pays africains, la stabilité de son régime politique. Maurice est, sur le modèle anglais, une démocratie parlementaire. Il y a donc des élections régulières, il n'y a jamais eu de coup d'État, une armée qui est toujours restée dans ses casernes, et une armée réduite au strict minimum, c'est-à-dire le maintien de l'ordre intérieur. En fait, là encore, les Mauriciens ont été très astucieux, puisqu'ils ont des accords militaires préférentiels avec les Anglais, avec les Français qui sont installés à La Réunion, et avec l'Inde, dont évidemment ils ont des relations historiques. Fort de ces accords, ils n'ont pas besoin de développer une armée importante. S'il y a un problème, ils appellent ses trois amis et ils sont à l'abri. Et évidemment, les dépenses militaires de Maurice ont été réduites au strict minimum et tout cet argent qui n'a pas été investi dans des dépenses militaires a pu être investi dans le développement. Voilà, je pense que je vous ai donné quelques éléments sur Maurice, qui est un pays attachant, et qui a connu un développement tout à fait spectaculaire et qui méritait d'être souligné. Ce n'est pas seulement une île paradisiaque, c'est un pays où les gens vivent, travaillent, se développent et qui sont arrivés à un résultat tout à fait honorable. Je vous remercie.
C'était Emmanuel Grégoire, géographe et directeur de recherche IRD. Le prochain rendez-vous du cycle Les îles laboratoires sera autour des petites îles de Méditerranée et de leur trésor de biodiversité le samedi 22 février à 17h à l'Alcazar. Les conférences IRD sont toutes en écoute sur le site de la Grenouille. Bonne journée sur le 88.8.